Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Salut Technis Savoir, salut Marc, salut Jean-Pierre, Axel, Jacques, Willem, Sylvain, Green, Samuel qui me dit 5 sur 5. Chusei, Philippe, Sultan, Maxime, bonjour à tous, salut Geoffrey. Salut Jérôme, Olivier, Tofu, 2082 Clos, William, Malik, Philippe, Toutou Cool, Nat, salut Nat, Rick Udo, Gerlando, Christophe, Fribolet, Hyponomie, Moni, Christophe, etc. Toute la chatroom qui est réveillée. Alors attendez, je suis juste en train de me dire que j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais le faire rapidement. C'est une nouveauté dans l'émission, mais bien sûr, j'ai oublié de la faire. Alors, une seconde. Je suis à vous dans une seconde. Désolé pour ceux qui écoutent ou regardent le replay. Ça va faire un petit blanc que j'essaye de combler en racontant n'importe quoi. Ce que je sais très bien faire, comme vous l'avez vu dans mes vidéos. Merde, il faut que je me connecte. Donc je meuble, je peux chanter aussi un petit peu. Ou pas. Non, je ne me connecte pas comme ça. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Hop, le mot de passe est passé. Suspense, suspense, suspense. Je vais sur mon compte. Je vais dans les stats. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, the fuck. Ça arrive, ça arrive. Mes tipeurs. Et voilà, on va commencer à remercier effectivement les tipeurs de l'ensemble de la chaîne. Attendez, j'avais un moyen. Ah, mais pourquoi il me fait ça? Ça vient, ça vient. Ça vient. Ton jus d'orange va refroidir. Bah, fais-le réchauffer. Alors, tableau de bord, normalement c'est là que j'ai toutes les infos. Voilà, ça s'affiche avec une lenteur d'escargot. Voilà. Fidélité des tipeurs par nombre de mois. J'aimerais remercier 5 tipeurs par Texcope. Et l'ordre qu'on va prendre, c'est pas par montant, hein, parce que là, chacun, c'est à la discrétion et dans les moyens de chacun, mais plutôt à la fidélité. Donc, je vais commencer à remercier déjà ceux qui sont là depuis 21 mois, qui nous soutiennent depuis 21 mois. Et la numéro 1, c'est Nazado. Elle n'est peut-être pas là ce matin, mais je voudrais la remercier très chaleureusement. C'est notre fidèle d'entre les fidèles. Et il y a également Damien, Aédan, Paladin Bleu. Salut Caribou. Il y a Lorenzo. Et il y a Bruno B. Voilà pour les 5 premiers que je voulais remercier. Un grand merci à vous, tipeurs depuis 21 mois de Nowtech. Et grâce à vous, on est encore là. Allez, on va commencer le sommaire. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste moi qui annonçais qui commence à remercier les tipeurs. Et là, on commence le tableau de ceux qui sont là depuis 21 mois. Les meilleurs, voilà. De quoi on va parler ce matin? On va parler d'Oculus qui va lancer, enfin Facebook qui va lancer Oculus Go, une visière à moins de 200 $, enfin 199 $, visière légère. On verra un petit peu leur stratégie. On parlera également de Snapchat qui introduit des cartes contextuelles. Et oui, Snapchat se Facebook tease, je sais pas comment on dit. En tout cas, Snapchat, ça va bientôt être un truc pour les vieux. C'est ce qu'on verra. On parlera également de la Kindle Oasis qui enfin fait plouf. 10 ans après le lancement de la Kindle, ça y est, Amazon se décide à lancer une liseuse étanche. On parlera également du OnePlus qui espionne ses smartphones à l'insu de ses utilisateurs. Oh les vilains! On parlera, et ça c'est une petite excitation personnelle, DJI ZenMuse X7, la première caméra Super 35 mm 6K pour drone. un truc assez balèze de la part de DJI dans leurs annonces. Non, je n'ai toujours pas reçu mon drone DJI. D'ailleurs, il faut que je leur envoie un mail. Où est-ce qu'il est passé, ce drone? C'est envolé ou quoi? On parlera également d'une nouvelle génération de capteurs photo que Samsung va lancer et qui amènera le mode portrait pour pas mal de téléphones, et notamment tous les téléphones qui n'ont pas les doubles capteurs vont enfin pouvoir faire du mode portrait. Et on terminera par un grand sondage. Le plastique, c'est fantastique. Merci Ranger de ne pas parler en cap dans la chatroom, sinon tu risques de te prendre un ban. Oui, le plastique, c'est fantastique. Justement, on se posera une question. Pourquoi on a jeté à la poubelle, ou en tout cas les constructeurs, ne font plus beaucoup de smartphones en plastique? Est-ce que c'était si nul que ça, le plastique? Grand sondage en fin d'émission. Voilà, en tout cas... Non, c'est pas grave, Ranger, c'est des choses qui arrivent. Voilà, en tout cas, pour le sommaire, j'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. On va pouvoir commencer ce Techscope. Vous êtes déjà 150 dans la chatroom. Je reparlerai de la vidéo sur l'éclairage parce que j'ai vu certaines de vos réactions que vous aviez peut-être pas compris une chose importante sur cette vidéo de l'éclairage. J'en parlerai pendant les annonces. Mais on va commencer tout de suite en parlant d'Oculus, puisque Facebook, sur scène hier, Mark Zuckerberg a annoncé une nouvelle visière qui va s'appeler l'Oculus Go. Une visière à $199. Donc, $200. Ce qui est peut-être... Alors, c'est une visière complètement autonome. C'est pas une visière qu'on branchera sur l'ordinateur. Donc, c'est pas dans la même catégorie que les Vive ou l'Oculus actuel. Elle sera, a priori, elle détectera les mouvements de la tête, mais vous pourrez pas bouger avec. C'est-à-dire que je pense que tous les mouvements comme ça, etc., ne seront pas détectés par cette visière. Donc, entre guillemets, c'est de la visière de gamer, mais un peu moins que ses grands frères, mais c'est pas du tout le même prix. En fait, la stratégie de Facebook, quand on regarde en détail, c'est d'avoir une visière à eux, une Oculus, à moins de $200, pour équilibrer les choses avec Gear VR. Parce qu'aujourd'hui, le partenaire... le partenaire de Facebook, c'est Samsung. Et Samsung, bon, il vend bien hein, la Gear VR, il la donne même avec pas mal de smartphones, mais Facebook aimerait avoir un peu plus de contrôle justement sur les visières pour favoriser le développement. Aujourd'hui, ce qui manque effectivement pour la réalité virtuelle, c'est un développement plus poussé d'applications mobiles. En développant sa propre visière Oculus légère et moins chère, Facebook reprend un petit peu le contrôle sur le développement. A priori, ça commencera l'année prochaine. On n'a pas de date plus précise, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Mais c'est vrai que... c'est vrai que on s'est souvent dit que la VR ne décollerait pas tant que les visières seraient aussi chères et aussi dépendantes d'un ordinateur. C'est-à-dire jouer avec sa visière qui est connectée à l'ordinateur et en la payant 800 €, ça va pour les hardcore gamers, mais ça dépassera pas vraiment ça, quoi. Donc, je pense que effectivement, cet Oculus Go qui effectivement embarquera moins de possibilités, mais qui sera très confortable, très légère, complètement indépendante de l'ordinateur, permettra le développement peut-être d'apps un peu moins spectaculaires de jeux vidéo ou ce genre de choses, mais repose-moi la question fin d'émission à Tech, parce que là, je fais l'article, c'est pas évident de vous répondre en même temps sur la chatroom. Donc moi je pense que voilà, à 200 dollars, donc on va dire 250 €, ça a déjà plus de chances de prendre. Peut-être pas grand public, mais et Au-delà du prix, je pense qu'il y a aussi un truc facile à utiliser. Moi, la grosse visière qu'on branche sur l'ordinateur, ça va quand on veut jouer un jeu vidéo, mais pour faire, on va dire, de la VR légère, bof. Visière n'est pas le bon terme. Oui, ben c'est le terme qui est utilisé. De visière. Je vois pas l'intérêt de l'Oculus Go. Je vois pas quel écosystème ça va aller. Ben justement, je pense que c'est pour le créer, cet écosystème. D'applications peut-être moins gaming, qui font appel au VR, que ça soit des sites de news qui proposent des images en 360 ou ce genre de choses. Je pense que justement cette VR légère, on va l'appeler, il y a du développement à faire. Mais aujourd'hui, il y a un peu que les visières dans lesquelles il faut glisser leur smartphone, ce que je trouve pas hyper pratique. Ce côté mettre le smartphone dans une visière, c'est un geste de trop, quoi. Ben justement, là, elle sera en dessous de 300 euros. Je vois pas l'intérêt de la VR pour les particuliers. Il y a effectivement des doutes. Mark Zuckerberg, lui, il y croit. Il y voit un potentiel énorme. Il y va à fond. Est-ce qu'il va se prendre un des premiers gros crashs de sa carrière? On verra bien. On verra bien, on verra bien. Allez, on va passer aux petites annonces. Et oui, ce matin, j'ai perdu du temps à l'intro, mais je vais vite sur le premier article. On va passer aux petites annonces. La plus importante, c'est le 11 novembre, le Nowtech Drink. Voilà, le 11 novembre au Corcoran à 19h, Corcoran Sacré-Cœur. Samuel vous a mis l'adresse dans la chatroom. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur Facebook. On a ouvert un event. On met le lien de cet event Facebook dans le texte. Pour ceux qui regardent en replay, vous l'aurez dans le texte de cette vidéo. Vous pourrez cliquer sur le lien. C'est important que vous inscriviez, même si vous n'êtes pas à 100% sûr de venir, pour que la Timothès qui organise l'event puisse avoir une évaluation du nombre de personnes. Nous, ça nous aide dans la réservation du lieu et savoir un petit peu où est-ce qu'ils peuvent nous placer. Donc, même si vous êtes sûr qu'à, allez, 70% que vous allez venir, inscrivez-vous comme si vous veniez et puis comme ça, vous venez. Voilà. Donc, je vous invite à vous inscrire pour le Nowtech Drink le 11 novembre au Corcoran. C'est un week-end férié. C'est le week-end du salon de la photo. Donc, vous n'avez pas d'excuses cette année pour pas venir. Voilà, comme dit Damien, ils ont besoin d'un petit peu d'aide pour savoir combien de personnes vont venir. On a hâte de vous voir. Tout à fait. Oui, je sais, Émilie Marie, si on pouvait, on paierait le train à tout le monde. Mais ça, ça sera le palier numéro 25 de notre Tipeee. On n'est pas encore au 3. Mais promis, palier 25, on fera un accord avec... Non, on fera mieux. On fera un TGV qui fait le tour de France et un Nowtech Drink permanent en tournant autour de la France. Voilà. En VR. Oui, c'est peut-être toi qui m'as posé les questions. Écoute, tu peux venir en tant que mineur. Sache que c'est dans un bar qui te serviront pas d'alcool. Faut peut-être que tes parents soient au courant. Mais oui, dans l'absolu, t'as le droit de faire ce que tu veux. De toute façon, je suis pas responsable de toi. Hein. Tu fais ce que tu veux. Hein? Après, si t'es mineur, un mec avec une pioche et une lampe là, c'est encore moins un problème. Hein? Je dis n'importe quoi. Ah ouais, mais 17 ans, c'est mineur quand même. Hein? Tant que t'as pas les 18, hein. Voilà. Allez, l'autre annonce que j'avais à faire, oui, je voulais vous parler un petit peu de la vidéo qui est sortie hier. Je sais qu'elle n'intéressera pas tout le monde et beaucoup moins de monde que mes Apple Watch ou mes iPhone ou mes trucs comme ça, mais quand même, c'est une vidéo assez intéressante. J'ai eu la chance de pouvoir faire une interview du directeur marketing d'Aputure. Aputure, c'est une marque de lumière. Vous me demandez souvent quelle caméra je dois acheter, comment je peux améliorer ma vidéo, comment je peux faire des vidéos, comment je peux me lancer sur YouTube. Et donc, cette vidéo est le premier kit qui vous conseille, il coûte 500 euros. Donc, il y a plein de gens qui me disent « Oh, mais c'est pas du tout mon budget, moi en lumière, je peux mettre 100, 150 euros. » Alors, je vais vous dire un truc tout de suite. Mon vrai conseil, si vous voulez vous mettre à la vidéo aujourd'hui et que vous avez un smartphone qui est pas dégueu, plutôt que de vous acheter une caméra à 500 euros ou à 600 euros, qui en fait vous servira à rien si vous avez un mauvais éclairage, vous mettez 500, 600 euros dans l'éclairage, un éclairage qui va vous durer toute la vie, contrairement à un appareil photo, et vous continuez à vous filmer avec votre smartphone. Vous allez voir, et ça je vous le garantis, et un jour je vais faire une vidéo pour vous le prouver, vous aurez une bien plus belle image avec un bon éclairage et un smartphone qu'avec un appareil, une caméra à 500 euros, avec un éclairage de merde. Ça, c'est la première chose. Faut bien que vous reteniez ça. En fait, normalement, votre ordre d'investissement en vidéo, ça devrait être micro, c'est le plus important, lumière, décor et optimiser le son chez vous. Ça, c'est le troisième investissement. Et ensuite, vous achetez une caméra. OK ? C'est cet ordre-là. Vous faites souvent tout à l'envers. Vous achetez la caméra, puis après, oh, merde, j'ai un micro pourri. Oh, il y a de l'écho chez moi. Au niveau des lumières, ça craint, j'ai une vieille lumière de bureau qui flique. Et vous avez une image de merde. Donc, vous voulez faire des belles vidéos, écoutez mes conseils. Dans l'ordre d'achat, le micro. Ensuite, j'ai dit quoi ? Le micro, la lumière, de la déco chez vous et assourdir les sons. Et ensuite, une caméra. Oui, la Texcom, moi, je suis éclairé. Hein. Enfin, j'ai optimisé mon éclairage. Tenez, je vous montre. Yep. Regardez, j'ai plusieurs éclairages que j'ai optimisés. Il y a des éclairages derrière, etc. Voilà, j'ai travaillé un petit peu mon éclairage. Et comme vous voyez, cette carte aussi me sert de surface réfléchissante pour pas avoir un teint trop blanc dans le Texcope. La lumière, c'est la deuxième chose la plus importante après le son en vidéo. Bref, je voulais éclaircir ça parce que j'ai eu un certain nombre de réactions de gens qui disaient « Mais t'es fou, je vais pas mettre 500 euros dans la lumière. » Je vous dis pas de mettre 500 euros dans la lumière plus une caméra à 1000, machin, pour commencer. Je vous dis « Mettez plutôt 500 dans la lumière plutôt que de mettre 500 dans une caméra. » Voilà, ça c'est dit. Oui, vous avez vu du linge qui sèche. Bah ouais, ouais, bah oui, hein, je vis. Hein. J'habite pas dans un studio. Hein. Allez, on continue les articles de ce matin. On va parler effectivement de Snapchat. Et oui, Snapchat sans bourgeoise. Fini l'époque du Snapchat secret. Et vous allez pouvoir maintenant avoir des contextes cartes dans Snapchat qui vont vous dire où vous êtes, dans quel resto il faut aller, etc. Alors, il y a eu un petit mouvement de panique hier sur Snapchat. Quoi ? Mais j'ai pas envie que tous mes snaps soient géotagués. Quand je suis en culotte en train de faire le poulpe, ne me demandez pas ce que c'est que de faire le poulpe, je ne vous répondrai pas. Chez moi, j'ai pas envie qu'il y ait un géotag. Rassurez-vous, en fait, c'est quand vous aurez décidé de géotaguer un Snapchat, qu'il va y avoir des cartes contextuelles. Je vous montre un peu la vidéo des fonctionnalités. Alors, c'est une vidéo pour les jeunes, hein, parce que Snapchat, c'est pour les jeunes. Waouh, je veux manger des pancakes, mais c'est où? Ah, c'est là qu'il y a des bonnes pancakes. Waouh, c'est trop bon les pancakes. Ah, mon chien, il est trop mignon. C'est où ta fête d'anniversaire? Ah, bah, c'est là. Ah, c'est cool. Tiens, on écoute de la musique dans le 4x4. Oh, je caresse un lama. Oh, je fais des oreilles de lapin dans une grand roue. Oh, on danse comme des cons. Ah, mais c'est où qu'on danse comme des cons? Ah, ben voilà, on est en maillot de bain. Ouais, mais c'est pas drôle de se balancer dans la piscine quand t'es déjà en maillot de bain. Voilà, vous avez eu droit à la pub sous-titrée façon Jérôme. En gros, qu'est-ce que ça va vous permettre? Non, d'ailleurs, je dis que Snapchat, c'est pour les jeunes, c'est de moins en moins vrai. Ceux qui se croyaient jeunes parce qu'ils étaient sur Snapchat, c'est fini. Vos parents débarquent bientôt sur Snapchat, justement avec les context cards, avec ces context cards qui vont avoir plusieurs partenaires, TripAdvisor, Foursquare, Michelin, des services Uber, Lyft, OpenTable et plein d'autres. En gros, c'est ce que je vous disais, Snapchat... sans bourgeoise et maintenant va vous inciter à aller au resto pour vous faire une bidoche de trois pneus de mobylette et comme ça vos Snapchats et vos selfies de la plage finissent les super abdos tablettes de chocolat parce que vous aurez mangé trop de pancakes en suivant les conseils de vos amis. Voilà. Je préfère Twitter. Moi, je sais que Snapchat, j'ai dû faire un choix. J'aime bien Snapchat. Je trouve qu'il y a des trucs pas mal dessus. Mais pour moi, c'était soit Snapchat, soit Instagram Stories. Et j'ai pas le temps de faire les deux. Donc, si vous voulez voir des snaps, eh ben, vous les verrez sur mon Instagram Stories. J'ai Jérôme Kenborg, je crois que c'est mon truc sur Instagram. Je préfère les Insta Stories. Bah, en tout cas, si on regarde les chiffres, Snapchat a un petit peu du mal. Un petit peu du mal de sortir des ados, déjà. Et un petit peu du mal à faire gonfler ses chiffres, alors que Instagram Stories cartonne. Je pense que Instagram Stories, bah, il est plus consensuel. Il y a déjà, il y a des tranches d'âge beaucoup plus larges sur Instagram. Et beaucoup de gens, quand même, ont une communauté qu'ils ont déjà construite sur Instagram. Ils n'ont pas envie de la refaire sur Snapchat. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu pénible ce matin. Merci, Tofu Sauvage, pour ta modération. Voilà, voilà. Est-ce que c'est intéressant? Bah, ouais, peut-être. Je sais pas. Vous, dans la chatroom, les Snapchatters, c'est un truc qui vous emballe? Bof. Bof, bof, bof. Osef. Non. Non. Ça va trop vite. Trop vieux, pas du tout, sans plus. Ok, je vais peut-être pas insister sur l'article, hein. C'est une bonne idée, Snap. Merci Olivier, Snap te remercie. Tu es le soutien à Snap du matin. Caribou, elle, c'est une grande utilisatrice de Snapchat. Donc ça va peut-être l'intéresser de pouvoir nous recommander des pancakes. Parce que ça marche que avec les pancakes, hein. Vous pouvez pas faire d'autres trucs. C'est que pour recommander des pancakes à des amis. Très, très ciblé. Je dis n'importe quoi, hein, ne m'écoutez pas trop. Putain, j'ai faim, là, à force de parler de pancakes. Ça évite d'écrire le nom du resto dans Snap. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah oui, Caribou, c'est une junte. T'as un masque pancake. Eh ben... Génération masque. Justement, j'utilisais les masques de base du Galaxy Note 8. Ils sont pourris, les masques de base chez Samsung. Tu me diras, au moins, ils en ont. En tout cas, pour l'instant, sur l'iPhone, on n'en a pas. On aura bientôt nos animojis. Mais pour l'instant, on n'a rien en masque de base. Mange si t'as faim. Non, je ne vais pas manger pendant que je présente le Texcope. Ce serait pas classe. Allez, on continue et on va parler de la Kindle. Alors là aussi, je vous invite à aller voir une vidéo. Peut-être que certains l'ont raté, parce qu'on l'a sorti, je ne sais plus, on l'a sorti il y a un ou deux mois. Marion a fait un test assez complet de la Kindle versus la Kobo, un petit peu pour vous aider dans le choix d'une liseuse. Et elle disait effectivement un des avantages de la Kobo sur les Kindle, c'est que la Kobo au moins elle est étanche. Et mine de rien, quand on trimballe sa liseuse sur la plage, ou si comme moi vous êtes un grand amateur de bain et que vous aimez lire dans votre bain, Avec la Kindle, c'était un peu délicat. Eh bien, 10 ans après le lancement de la Kindle, Amazon se décide enfin à sortir un modèle étanche. Ça sera la nouvelle Kindle Oasis. Elle aura un écran Paperwhite sans reflet 7 pouces, une résolution de 300 ppp. Elle sera donc résistante à l'eau, une norme IPX8, c'est-à-dire 2 minutes. C'est-à-dire jusqu'à 2 mètres pendant une heure dans de l'eau douce. Attention avec l'eau de mer. Mélanie vous invite à aller voir la vidéo de Marion, on la voit en maillot de bain. Tu vois Mélanie, j'espère que tu es bien une fille, parce que j'aurais trouvé que ce serait c'est un petit peu sexiste comme réflexion. Allez voir la vidéo, parce que Marion est en maillot de bain dedans. C'est un tout petit peu sexiste. Bon, en tout cas, je vous garantis que moi, une vidéo avec moi en maillot de bain, vous n'êtes pas prêts de voir ça. Et de vous à moi, vous ne le savez pas, mais vous êtes plutôt content de ne pas me voir en maillot de bain. Voilà. Ça, c'est dit. Bref, elle sera disponible, cette Kindle Oasis étanche, le 31 octobre, à partir de 250 €. Elle sera en 3 versions, la 8 Go Wi-Fi, la 32 Go Wi-Fi et la 32 Go Wi-Fi plus 3G. Mais Marion, vous avez dit, la 3G, ça ne sert pas énormément, à moins d'être un très, très grand voyageur. Oui, bah déjà, vous m'avez vu en peignoir. Ce sera le plus sexy que je vais vous faire, hein. Il faudra lui demander. Hein. Donc, Bobo vient d'arriver sur une histoire de Jérôme en maillot de bain. C'est vrai que parfois, je devrais penser aux gens qui arrivent dans l'émission en cours de route. Parfois, ça doit être assez surréaliste, quoi. Non, ah oui, non, c'est pas des slips d'abord. C'est des caleçons sur mon étendoir à linge et des t-shirts. Il n'y a pas de slip. Enfin, c'est des caleçons. C'est des caleçons qui serrent, c'est des boxeurs. Bref, je ne sais pas pourquoi on en est arrivé à parler de mes slips, mais je vous propose de changer de sujet. Et si on parlait du OnePlus qui espionne ses utilisateurs, hein, à l'insu de ce qui espionne ses smartphones à l'insu de ses utilisateurs. S'il vous plaît, lâchez mon slip. Hein, on passe à autre chose, la chatroom. Là, on en est au OnePlus, hein, le OnePlus 5, très bon smartphone et tout ça, sauf qu'on se souvient qu'il y avait eu un mini-scandale de OnePlus qui avait triché sur les benchmarks officiels, mais ça, c'est pas grave. Par contre, Chris Desmore, un chercheur en sécurité, a découvert que son OnePlus 2 envoyait des données sur un serveur hébergé aux États-Unis appartenant à Amazon. Il est allé plus loin, il a trouvé quelles étaient les informations concernées. Les données collectées sont les suivantes. Le numéro IMEI, l'adresse MAC, le nom des points d'accès Wi-Fi, également la liste des applications utilisées dans les heures d'utilisation de ces dernières. A priori, la communauté a cherché, et ça viendrait d'une application qui s'appelle OnePlus System Service, qu'on ne peut pas complètement désinstaller du système. Par contre, on peut lui rajouter une ligne de commande si vous voulez pas qu'elle envoie ces infos-là sur le serveur. que dire? Moi, j'ai envie de dire, ils le font tous, hein, ça. Là, franchement, je trouve qu'on est d'une certaine naïveté. Oui, tous les constructeurs de smartphones ont ce type d'infos. Ils connaissent nos usages. Et de ce que je vois, il n'y a rien, entre guillemets, de confidentiel dans ces données à partir du moment où c'est pas lié à votre nom. Votre nom n'est pas dans les données. Donc, à un moment, je veux pas défendre OnePlus. Ils ont certainement été maladroits. Et moi, je suis le premier à dire, ils devraient nous le dire en gros, la première fois, et même nous le rappeler, quand on ouvre notre téléphone. Eh, n'oubliez pas qu'on collecte certaines de vos données pour améliorer nos services. Et oui, même Apple collecte ce type de données pour améliorer les services de l'iPhone, pour améliorer iOS, pour voir un petit peu comment on les utilise, ces smartphones. Après, il faut nous le dire clairement. Ça, c'est le reproche que je ferai au constructeur. Mais dites-vous bien, oh, on est espionné. Vous êtes espionné à partir du moment où ces données-là, on peut les rattacher à un nom à qui vous êtes. Si elles ne sont pas rattachées à un nom, et que vous êtes juste, entre guillemets, un numéro, hein, c'est des données anonymisées. Donc, c'est pas vraiment de l'espionnage. C'est, on va dire, des informations marketing et techniques. Là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je pense parfois il est important de prendre du recul parce que je trouve qu'il y a des réactions trop hystériques. Et ce type d'article, pour moi, est typique. Hystérique et naïve. Oh mon Dieu, mais on m'espionne. Mais hey, moi, là, avec les stats de YouTube, je sais que vous êtes en train de me regarder, par exemple. Je sais votre tranche d'âge parce que vous l'avez donné à Google. Je sais combien de temps de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je sais même si vous avez cliqué sur une bannière publicitaire. J'ai toutes ces données-là, mais j'ai pas vos noms en face. Mais je sais tout ça. Je sais combien de personnes regardent l'émission en slip. Ah, merde, ça je devais pas vous le dire. Non, l'IMEI est un ID unique, c'est pas ton nom. On connaît le modèle de ton téléphone. C'est un numéro unique de ton téléphone. Après, oui, si tu es de la police, avec l'IMEI, tu peux traquer l'achat pour retrouver la personne. Vous êtes 16% à regarder Techscope en slip. J'ai des données très très précises. Et 2% qui ne portent pas de slip. Et vous êtes 7% à aller au moins une fois aux toilettes pendant le Techscope. Je le sais. J'ai toutes ces données, qu'est-ce que vous croyez? Mais après, je ne sais pas qui vous êtes. Hein. Ah, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, Mélanie. Une gaine, etc. Ouh là là. Mais bon, après, je peux faire mes petites stats. Je prends la population féminine. Vous êtes en général sur la chaîne, la population féminine, vous êtes 11%. Et j'en suis fier parce que c'est un super bon score pour une chaîne tech. J'aimerais qu'on soit 50-50. Mais je trouve que 11%, 11% de femmes pour une chaîne tech, c'est pas mal. J'ai dit, les WC, je sais que à peu près 7% d'entre vous allez au WC au moins une fois pendant le Techscope et que vous gardez votre smartphone à la main. Non, j'ai pas ces infos-là, quand même. Je déconne. Par contre, oui, vos informations démographiques, où vous êtes, globalement, votre tranche d'âge, ça j'ai, oui. Il y en a certains qui ont un petit peu paniqué là. Les slips, c'est du tech. Décidément, hein, vous collez au slip hein, ce matin. Hein. Vous êtes dissipé la chatroom. Vous me dissipez. Allez, on revient dans les articles tech. Et moi, je vais vous parler de ce qui. Ce qui m'a excité ce matin, comme quoi hein, on a les excitations qu'on peut, hein. La nouvelle annonce de DJI. DJI annonce la Zenmuse X7. Je vais aller vite parce que ça va intéresser que certains d'entre nous, mais je pense que ceux qui sont intéressés par ce type de truc, waouh ! Et oui, parce que c'est une caméra de cette taille-là qu'on pourra embarquer sous les drones de DJI et c'est une caméra 6K. 35 mm, donc vraiment faite pour le cinéma. Elle pourra enregistrer en RAW, en 6K en DNG RAW et en 5,2K en Apple ProRes direct. Alors là, c'est vraiment des trucs de pro. Hein. Elle pourra monter jusqu'à 30 images secondes dans ses résolutions. Et elle pourra ouais, du 4K et des 2,2, ça on s'en fout. 14 stops de plage dynamique, pas mal du tout. Et également, et ça c'est assez intéressant aussi, il lance pour aller avec toute une gamme d'objectifs fixes, un 16 mm, un 24 mm, un 35 mm, un 50 mm, alors c'est des équivalents hein, je pense, avec des ouvertures de F, des ouvertures fixes, de F, de pas fixes mais permanentes, ben oui c'est des objectifs fixes, t'es con Jérôme, de F2.8, qui ont l'air pas, qui sont super intelligemment construits pour du drone, c'est qu'ils ont tous la même taille et à mon avis des poids très équivalents. Ça vous évitera de devoir recalibrer votre berceau à chaque fois que vous changez l'objectif sur votre Zenmuse. Franchement, vous vous rendez pas compte, mais c'est une vraie prouesse technologique dans cette taille-là de rentrer une caméra 6K. C'est une vraie prouesse. Alors, bien sûr, vous vous doutez bien, c'est du matos pour le cinéma, mais encore une fois, relativement accessible pour les performances. C'est pas pour vous, hein. C'est pas pour faire du drone de vacances, hein, puisque la X7, elle sera disponible au prix de $2,700. Rien que le boîtier, les objectifs seront à $1,300 pièce, le 50 mm à $1,200, et il y aura un pack avec la caméra et les 4 lentilles à $4,300. Mais ça vous choque, hein, j'en vois dans le chatroom. Oh, mais c'est pas pour vous. Mais je peux vous dire que pour un réalisateur indépendant, une boîte de prod, c'est des prix, nous on fait, oh, mais c'est génial, quoi. C'est des trucs, il y avait 2 zéros de plus il y a 5 ans, quoi. Et ça montait pas sur un drone. Ben, franchement, c'est vraiment pas cher pour du matos de cinéma. Regardez la vidéo que j'ai sortie hier. Ce que vous explique Ted, le directeur marketing de chez Aputure, une lampe de cinéma, mais rien qu'une lampe de cinéma, ça vaut $6,000 à $7,000. Le matos pour le cinéma, et je peux vous le dire, j'étais à l'IBC, il n'y a rien en dessous de 10 000 €. Parce que c'est du matériel qu'on loue généralement. Ou alors, on est la Warner, ou on est Disney, ou une très grosse boîte de prod, et dépenser $600 pour une lampe, pas un problème, vu le budget du film. Donc, non, vous vous rendez pas compte, mais c'est révolutionnaire, ces prix-là. C'est révolutionnaire. Ces capacités-là, avec ces prix-là. Et DJI est un peu en train de faire pour les drones, et surtout pour les caméras de drones, ce que Panasonic est en train de faire pour les appareils photo. Des rapports qualité-prix complètement incroyables. Oui, le GH5, ça vaut 2 000 €. C'est hyper cher pour la plupart d'entre vous. Mais quand on voit ce dont il est capable, et que ça vaut quasiment un zéro de plus dans la concurrence, bah ouais, ils ont, c'est pas cher un GH5. Oui, les RED, les Arri, les RED, toutes les caméras de cinéma, c'est pas des caméras qu'on achète. Là justement, et c'est un peu ça qui est révolutionnaire, c'est du matériel qui est achetable du coup à 4 000 € pour une boîte de prod ou un cinéaste indépendant. Cette caméra, elle est achetable, il n'est pas obligé de la louer parce que la location, ça a du bon, mais c'est pas toujours pratique. Et surtout, si par exemple vous êtes un YouTuber que vous produisez régulièrement, vous pouvez pas louer le matériel parce que ça devient pas rentable. Enfin bref, c'est super excitant que ce type de matos arrive. C'est complètement fou même. Oui, oui, ça dépend de... De toute façon, je vais vous le dire, une caméra 6K, moi, ça me servirait beaucoup. Parce que le jour où j'aurai toutes mes caméras qui feront du 6K, je passerai la chaîne au 4K. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Moi, la 4K me permet de faire du très bon 1080. Mais le jour où mes caméras feront du 6K, je passerai au 4K en diffusion. Non, c'est fou. C'est complètement fou. D'ailleurs, j'ai envie d'écrire à DJI pour leur dire « En fait, votre drone, il m'intéresse pas du tout. Ce que je veux, c'est cette caméra-là. Je m'en fous, je la ferai pas voler. Je la colle à un manche à balai et je la balade comme ça. Mais votre caméra m'intéresse presque plus que votre drone. » Ah, commence pas à me dire que la 4K, ça sert à rien. Je sais que c'est de l'ironie SMG, mais me lancez pas sur le sujet. Hein. Sinon, un Texcope qui, pour l'instant, était assez rapide, va devenir un Texcope trop long. Elle sortir en osmose, c'est une bonne question. Il faut voir. Effectivement, la X5, la Zenmuse X5 est compatible avec l'Osmo. Enfin, on peut la monter sur un Osmo avec un adaptateur. Est-ce que la X7, on pourra la monter? Je ne suis pas certain. Elle a l'air un peu plus lourde hein, quand même que la X5. On verra. Mais justement, Otalo, c'est ça la classe chez un réalisateur indépendant. C'est de mettre une caméra à 4000 à 6000 euros sur un manche à balai. Parce que franchement, pourquoi dépenser 100 euros supplémentaires pour prendre une perche en carbone? Un manche à balai faisant aussi bien l'affaire. Allez! On continue, on reste un petit peu dans le domaine de la photo, mais là ça va vous intéresser plus parce que c'est la photo sur smartphone. Samsung annonce une nouvelle gamme de capteurs. Ces capteurs sont très intéressants parce qu'ils vont être plus petits. Ça c'est inquiétant parce que ça veut dire des pixels plus petits, mais Samsung a dit oui, nos pixels seront plus petits, mais en fait on a des nouvelles méthodes pour gérer les basses luminosités, puisque les pixels plus petits sur le capteur, généralement c'est des mauvaises performances en basse luminosité, mais ça devient de moins en moins vrai. Donc tout ce que je vous ai dit l'année dernière, vous oubliez, il va falloir faire un reset cette année. Mais là où je voulais en venir, c'est que là où ils sont intéressants, c'est qu'ils vont utiliser ce qu'on a vu dans le Pixel 2, c'est-à-dire le dual pixel. Va permettre le dual pixel. Je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Pour faire le mode portrait, c'est-à-dire pour créer un petit mapping en 3D d'un sujet et pouvoir détecter que là c'est le fond et là c'est mon visage, jusqu'ici, que ça soit Apple, que ça soit Samsung et les autres, utilisaient deux objectifs. Deux objectifs sur le smartphone. Deux objectifs sur le smartphone. Ce que va permettre un capteur dual pixel, c'est qu'avec un seul objectif, le pixel, par contre, il est en deux parties. Il y a un léger écart entre les deux parties du pixel. Et en mesurant l'écart entre ces deux parties du pixel, il va pouvoir faire un mapping des visages, donc faire un mode portrait avec un seul objectif. C'est a priori ce qu'on va avoir aussi dans la caméra avant de l'iPhone X. C'est des technologies de deep, je sais plus quoi. Mais en gros, qui vont permettre effectivement d'extrapoler des informations 3D, c'est de la petite 3D, mais quand même de spatiale, on va dire, des informations spatiales avec un seul capteur. Par le dual pixel. Donc en ça va être intéressant parce que pourquoi ? Ça va permettre d'amener le mode portrait sur beaucoup plus d'appareils de smartphones qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le mode portrait est un petit peu réservé aux appareils qui auront une double optique. Sauf le Pixel 2. Le Pixel 2, voilà, offre un mode portrait. Plus réassurant, parce que ça existait avant les modes portraits, mais c'était vraiment un calcul en 2D. Il essayait de déterminer ce qui était votre sujet, puis de détourer. Quand je parle de mode portrait, c'est une vraie gestion du mapping hein, de la photo. C'est pas du dual pixel sur l'iPhone X, il est bardé de capteurs. Oui, Cool Diary, on est bien d'accord. Quand je dis simplement que c'est ce qu'on va voir sur l'iPhone 10, c'est le résultat. C'est qu'on va, sur l'iPhone 10, on aura un mode portrait en façade. Alors, chez Apple, grâce au capteur. Chez Samsung, ça sera grâce au dual pixel. Et l'autre truc important pour ces nouveaux capteurs que présente Samsung, c'est que comme ces capteurs sont très fins et très petits, a priori, techniquement, rien n'empêchera de mettre exactement le même capteur dans la caméra arrière et avant. Et ça, c'est quelque chose que j'attends. Je sais que certains constructeurs l'ont fait, mais moi, je pense que, surtout à l'époque à laquelle on vit, avec les Snapchat, tous les... On a, et même les YouTube Live, Moi, j'aimerais avoir le même capteur et la même optique à la limite que j'ai à l'arrière de l'appareil. J'aimerais l'avoir à l'avant de l'appareil aussi. La caméra de façade, ça sert pas qu'à faire des selfies débiles avec des duck face. On produit quand même énormément de contenu, que ça soit du vidéo blogging ou ce genre de truc, avec des caméras de façade. Donc pourquoi elles sont toujours moins bonnes que les caméras de dos? Ben parce que ça aurait fait trop épais de mettre des deux côtés. Mais avec des capteurs plus plats, on va peut-être y arriver. Mais personne n'est moche, Otalook. Tout le monde a du charme. Parce que le charme, ça repose sur ton caractère. Le reste, c'est de la plastique. La plastique, c'est des règles mathématiques. On n'est pas tous égaux au niveau plastique. Il y a des gens qui ont une beauté plastique plus que d'autres. Par contre, on est tous capables d'avoir du charme. Et la vraie beauté, c'est le charme. C'est pas la plastique. Voilà, ça c'est dit. Et un bon photographe, c'est pas quelqu'un qui va arriver à faire une photo d'une belle plastique, mais c'est quelqu'un qui va arriver à faire ressortir votre charme. C'est bien pour ça que je dis que tout le monde est photogénique. Il faut juste savoir s'y prendre. C'est pas une question de beauté intérieure. C'est une question de charisme, c'est une question de charme. Non, ça se voit à l'extérieur. Les tutos beauté sur Naotech bientôt, effectivement. Bon, en tout cas, bonne nouvelle pour les capteurs, hein, on est content. Et mon dernier article, et oui, je suis allé au dernier article, et oui, j'ai décidé de faire des Techscopes un petit peu plus courts. Donc ne vous étonnez pas qu'on soit au dernier article. Mais ce dernier article m'a paru intéressant, c'est un article d'Android Central où il se pose la question sur le métal, le verre et le plastique. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les hauts de gamme sont en verre ou en métal, aluminium, verre, ce genre de choses. Pourquoi on a abandonné le plastique alors que il y a eu des très... Marion en parle souvent, et même avec une certaine émotion, de son dos en plastique moussé, de son Lumia, je sais plus combien qu'elle avait, qui pour elle reste encore aujourd'hui le meilleur smartphone qu'elle ait jamais eu. Et c'est vrai que... Alors, on peut comprendre le plastique, tout de suite, ça fait cheap. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des traitements de plastique qui sont très agréables. Et c'est vrai que le plastique, en plus, représente quand même énormément d'avantages. C'est léger, ça laisse passer bien mieux les ondes, c'est plus résistant, ça pète pas. Donc aujourd'hui, là où on peut être un petit peu triste, c'est que pour... Et c'est un peu de notre faute, nous, les consommateurs. C'est que les constructeurs de smartphones... S'ils veulent vendre leur smartphone entre 800 et 1300 euros, on va dire le haut de gamme d'aujourd'hui, sont un peu obligés de mettre du métal ou du verre. Sinon, on va dire, ah non mais attends, je vais pas acheter un téléphone avec du plastique et mettre 800 euros dessus, quoi. Ça va pas, c'est du plastoc, quoi. Bah, c'est dommage. Et justement, c'est un petit peu le sondage. Et soyez francs, souvenez-vous de certains dos en plastique. Est-ce que vous êtes plutôt plastique ou plutôt métal vert pour vos smartphones? Hein? Plutôt plastique ou plutôt métal? Et ce n'est pas une question saugrenue. Métal vert, métal à fond. Et pourtant, le métal, ça rend vos smartphones plus lourds. Ça empêche les antennes de passer. On est obligé de mettre du plastique pour que les ondes passent. La qualité, le premium. Ouais, donc vous, du premium en plastique, ouais, ça passerait pas. Métal. La caricature du métal, quoi. Ah non, je sais que le métal, c'est pas ça. J'aime pas, mais je respecte. C'est plus solide, rappelle-toi les... Non, non, je suis désolé, à la torsion... beaucoup de métaux sont moins solides que des plastiques. Non, 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 des plastiques, il y a des... D'abord, effectivement, quand on veut faire classe, on dit du polycarbonate. Il y a des compositions de plastique qui sont beaucoup plus résistantes que tout ce qu'on pourrait faire, je pense même en métal ou en verre. Hein. Non, je suis pas d'accord aussi. Moi, je me souviens de Lumia, qui étaient des plastiques très très durs et qui rayaient pas avec les clés et tout ça. Regardez le plastique des iPhone 5C. Je vous avais fait le test à l'époque. Il marquait pas beaucoup. Le plastique était très dense. Donc, il y a des plastiques de très bonne qualité, quoi. Métal, plastique, verre, on s'en fout, on utilise des coques. C'est pas tout à fait faux. En fibre de carbone ou en téflon. Bah non, le matériau du futur dont on parle beaucoup, c'est la céramique. La céramique qui est un peu le matériau de rêve. Alors, c'est pas de la céramique porcelaine, hein. Céramique, c'est des alliages en fait de trucs. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Ça a l'avantage d'être léger, ultra résistant aux rayures, c'est incassable. Ça, mais pour l'instant, c'est très dur à produire. Non, non, c'est. Je sais que des gens ont une vision de la céramique, mais la porcelaine, c'est de la céramique. Oui, non, c'est des céramiques quand même vachement plus dures que de la porcelaine. Ouais, Gaël, ne crois pas ça. Hein. J'ai la critique Apple, je peux l'avoir facile. Hein. Je suis en train d'écrire mon comparatif photo Note 8, iPhone 8. J'en mets un peu plein la gueule à tout le monde, à vrai dire. En même temps, les deux sont bons. Mais bah ouais, tout le monde en prend pour son grade. Donc ouais, le plastique, mais avouez quand même, le plastique a énormément d'avantages et on le met plus dans les smartphones parce que nous, consommateurs, on se dit ça fait cheap, quoi. T'as besoin d'un matériau qui ne glisse pas dans la main. Honnêtement, c'est pour ça que je conseille les coques en cuir. Enfin, moi, je sais que je suis très cuir. Cuir moustache, moi. Mais je suis très cuir comme garçon. J'aime beaucoup le cuir parce que, justement, je trouve qu'il offre une espèce d'adhésion naturelle. Chips barbecue. Ça va pas bien, la chatroom. Je vous l'avais déjà fait, hein, la blague cuir moustache. C'était quoi pour l'iPhone? Je sais plus. J'avais même fait un clip avec la musique de cuir moustache. Ouais, moi je suis pour le retour du plastique. Je suis pour le retour du plastique. Alors effectivement, le cuir, faut tuer des vaches. On me dit. Ça me rappelle une anecdote et je vous la raconte quand même pour terminer ce Techscope. Dans le genre plantage des mecs qui font des tests trop rapides sur Internet. Quand je vous dis qu'ils prennent pas le temps de tester les testeurs, c'était la sortie du LG G4. Et le LG G4 était fourni avec... Enfin, il était... Justement, LG avait essayé de faire un smartphone où on n'avait pas besoin de rajouter une coque. Okay. Et il y avait déjà du cuir au dos du LG G4. Il était déjà en cuir. Et c'était du cuir fine fleur. Et du coup, il y avait, et plusieurs l'avaient repris derrière, c'est ça qui m'avait fait hurler de rire, des mecs qui avaient testé le smartphone hyper vite. Et ouais, ils ont inventé un cuir végétal. Donc ça tue pas des vaches. Mec, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pleine fleur ou fine fleur? Non, c'est pleine fleur, je crois. Le cuir pleine fleur, ça veut pas du tout dire qu'il est végétal. Ça m'a beaucoup fait rire. Ah non, il y a des plastiques qui fondent pas du tout sur les radiateurs. Hein. Pleine fleur, c'est pleine fleur. C'est le tannage, en fait, du cuir qui est fait à base végétale. Mais c'est pas du cuir de fleur. Avec du simili-cuir, on ne tue pas des vaches. Ouais, mais par contre, on colle au canapé avec le Sky. Désolé de te dire ça, mais en plein été, quand tu t'assieds sur un canapé en Sky, c'est très désagréable. Il y a du cuir d'ananas. Ah ouais. Oui, fine fleur, c'est autre chose. Voilà, en tout cas, c'était... Oui, et respect pour les véganes. Hein. Moi, j'ai grand respect pour les véganes. En plus, j'arrête pas de leur piquer des idées dans leurs recettes. Pour améliorer le goût de mes viandes, mais ça, il faut pas le dire. Mais très sérieusement, vegan, végétarien, restons ouverts, tolérance, respect de l'autre, hein, c'est les mots d'ordre de Texcope. Et il est effectivement 8h56, j'ai terminé un petit peu tard, parce que moi, mon idée, c'est vraiment de terminer le Texcope à 9h-10 pour avoir le temps de vous faire un Q&A et de terminer vraiment à 9h. Pourquoi je veux raccourcir un peu les Texcopes? C'est que ça empiète trop sur ma matinée. Mes matinées sont tronquées en termes de travail. Et vu le boulot que j'ai en ce moment, voilà, une demi-heure de gagner, c'est... C'est mieux pour vous, parce que vous aurez des vidéos, voilà. N'oubliez pas que le job, c'est que je vous fasse des vidéos. Alors, y a une question Platinium Samuel. Tu me l'as copié dans le préparation Texcope ou pas? Oui, ok. Question Platinium. Donc, on va commencer le Q&A avec une question Platinium. Je vous rappelle que ces questions Platinium, eh bien, elles sont réservées aux Platinium qui ont un coupe-fil et ils sont prioritaires pour les questions du Q&A. Donc, là, c'est Silent K qui me demande, après bientôt un an de Shadow, tu le recommanderais toujours? Dans mon cas, connexion numérique câble RAID SFR 400 Mbps 40. Alors, oui, ça dépend quel type de joueur tu es. Le Shadow, moi, je trouve ça génial pour quelqu'un qui veut des jeux vidéo en pleine définition, enfin, qui veut plus prendre la tête avec quelle carte graphique je dois prendre, machin et tout, mais qui veut faire tourner des jeux récents dans des grosses résolutions et ne pas avoir à acheter une tour. C'est une solution absolument géniale. C'est l'avantage aussi, c'est que tu as ton PC de jeu virtuellement n'importe où, puisque bientôt ça va tourner là-dessus, ça va tourner là-dessus, ça va tourner sur n'importe quel Mac, n'importe quel PC, globalement, quelle que soit sa puissance. Parce que tout ce que ça a besoin de faire, c'est de décoder le flux 4K qui vient de votre serveur Shadow. Après, tout repose sur votre connexion. Alors oui, le Shadow, je le recommande si vous avez une bonne connexion. Après, quand je dis, ça dépend quel joueur vous êtes. Si vous êtes un joueur de FTP ultra exigeant au moindre framerate, un joueur vraiment compétitif, généralement, eux, ils trouvent le Shadow bien, mais ils disent quand même qu'ils s'entraînent et ils continuent à jouer sur une grosse tour qu'ils se construisent eux-mêmes. Mais sinon, ouais, ça reste un produit formidable, hein, le Shadow. Il est, attention, il est plus en bêta, mais il est encore... Enfin, ils ont encore énormément de route à faire avant d'avoir un truc vraiment ultra stable, aussi fiable qu'une console de jeu, quoi. Voilà, pour répondre à ta question, c'est dans le cas, oui, je le recommande toujours. Oui, je dois faire une vidéo dessus. Oui, j'ai pas le temps. Allez, je prends d'autres questions. J'ai dit FTP, FPS, pardon. Le joueur de FPS, les joueurs de FTP. Jérôme, à ton avis, j'ai un SE 16 Go, je pense changer, mais j'hésite entre le 7 ou le 8. Merci de tes conseils. Prends plutôt le 8 si tu peux. Parce que franchement, je trouve qu'en photo, le 7 est génial hein, en photo. Mais le 8 est vraiment très bien. Et je pense qu'il y aura moins d'écart entre le 8 et le 10 en termes de photos qu'entre le 7 et le 8, en parlant d'iPhone. Application pour les backups, synchro vers cloud et NAS. Bah ouais, moi je fais tout ça. J'utilise iCloud, j'utilise Google Photos, j'utilise Dropbox, j'utilise mon NAS. Et après, j'ai différentes stratégies de sauvegarde de trucs. Est-ce que j'ai investi sur des projets Kickstarter dernièrement? J'attends toujours des fils LED d'éclairage qui servent normalement pour le camping, mais qui seraient vachement bien pour éclairer des trucs en vidéo. Mais depuis, non, j'ai rien sponsorisé d'autre. J'ai rien béqué d'autre. Ceux qui ont des éclairages Philips Hue et qui utilisent Apple HomeKit, Philips vient de rendre ses interrupteurs compatibles avec HomeKit. Tout à fait. Alors, on pouvait faire ces formules dans HomeKit, mais là, c'est directement les interrupteurs que vous pourrez contrôler. 8 ou 8 plus. Je vais vous dire, le fond de ma pensée, c'est qu'en fait, ce format-là, le 7 plus, le 8 plus, en fait, je trouve ça trop grand maintenant. Donc, attendez peut-être le 10 si vous voulez quand même double capteur, double objectif, mais dans un form factor plus petit. Mais sinon, prenez le 8. Vous n'avez pas besoin du mode portrait. Si vous n'avez pas besoin du mode portrait. Quand sort le LG V30 Beige? C'est maintenant? Non, je ne sais plus. Il faudrait que je relance... il faudrait que je relance LG pour savoir s'ils vont toujours m'en prêter un ou pas. Est-ce que je vais acheter l'iMac Pro? Non, a priori. Il faut que je continue à acheter des MacBooks parce que j'ai besoin de mobilité, en fait, pour mes montages. Quelle application pour le dessin sur iPad Pro? Oh, t'en as plein, hein. T'en as plein, on va dire que les essentiels. Paper pour démarrer, très bien, de 53. Et puis sinon, les applications de dessin un petit peu plus pro. T'as moi j'ai Procreate. Procreate. Pourquoi personne ne parle de l'acier inoxydable de l'iPhone 10? Bah si, j'en ai parlé moi. C'est très bien l'acier inoxydable de l'iPhone 10. Sur les côtés. Prochain tournage sur Paris, eh ben, on commence à 11h. On commence à 11h aujourd'hui et ça va être un comparatif photo-vidéo. J'ai peur qu'il soit très très long parce que j'ai écrit quelque chose d'ultra complet. Je vais essayer de le réduire, mais j'ai peur qu'il soit très très long. Un comparatif entre le Note 8 et l'iPhone 8 en photo-vidéo. Et on a déjà tourné des parties il y a 2 semaines, tout ce qui est mode portrait avec Sarah. Sarah que vous avez vu dans ma vidéo du GH5. Et là, on va tourner la suite. Tu as compris le problème que tu avais avec la vidéo de l'Apple Watch? Comment ça, le problème? Pourquoi j'avais perdu tous mes fichiers? Oui, je sais très bien ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va relancer les vidéos de test pour les gens de la communauté pour Noël? J'aimerais bien, mais pour ça, il va falloir que j'organise au niveau des bénévoles une task force pour ces vidéos de Noël. En fait, il va me falloir des gens qui savent un minimum faire du montage. Et surtout, j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de... En fait, ce que j'aimerais, c'est que quelqu'un qui veut envoyer une vidéo... doit cocher un certain nombre de cases avant d'envoyer sa vidéo. Donc j'ai besoin d'un formulaire sur le web qu'on pourrait mettre sur Nowtech dans lequel on imposera un certain nombre de choses pour que les vidéos soient mieux normées. Ça m'avait pris beaucoup de temps l'année dernière pour finalement, c'était con, mais retrouver le nom du mec pour le coller après dans la vidéo, etc. Ça avait été... Donc, il va falloir effectivement qu'on réfléchisse à un système de formulaire et de base de données pour ces vidéos pour pouvoir les monter plus efficacement. Donc, je vais monter une task force, on va dire un groupe de travail de bénévoles autour de ces vidéos de Noël. J'en parlerai bientôt sur le Slack dans le groupe bénévole, pour qu'on essaie de monter du monde. Et n'oublie pas de ranger les chaussettes qui traînent. Il y avait des chaussettes... Ah, merde! Bien vu! Mes deux petites chaussettes! Bien vu, bien vu. Oh, la honte! Normalement, je les range, mais celles-là, je les ai oubliées. Bien vu, bien vu. Putain, y en a un, il passe le Texcope à scruter mon appart, hein, quand même. Ouais, t'as le coup d'œil, hein. Tu dois être un peu psychorigide, hein, chez toi. Oh, les couverts ne sont pas exactement droits sur la table. Mon Dieu, mon Dieu. Bisous, je passe dans un tunnel. On te retrouve à l'autre bout. Non, mais je veux pas le faire moi-même, hein, le formulaire. Hein. Moi, je veux... voilà. Je touche pas à ces trucs-là. J'ai pas le temps. Le problème, c'est que voilà, les vidéos de Noël, ça me boufferait beaucoup de temps. Et je vais avoir beaucoup de vidéos à faire d'ici la fin de l'année. Donc, si on les fait, il faudrait que ça soit bien mieux organisé que l'année dernière. Non, mais sans code, mais moi, c'est même pas une question de code. Vraiment, c'est une question de temps. Si vous saviez le nombre de choses que j'ai à faire pour la chaîne qui sont urgents, dans ma to-do list, je crois que là, actuellement, j'ai plus de 30 trucs urgents à faire. C'est pas facile. C'est pas facile de faire des vidéos et de s'occuper du reste. Je peux vous le dire. Non, non, contacte pas par mail. Contacte le groupe bénévole. Bénévole avec un S, .nowtech@gmail.com. Allez, je prends une dernière question. Oui, non, mais j'aimerais faire beaucoup plus pour l'organisation de la chaîne, faire plus de live privé, ce genre de choses. Comprenez juste que pour l'instant, moi, ma priorité, c'est de sortir un maximum de vidéos sur la chaîne YouTube. Et ça, ça me bouffe 99% de mon temps. C'est pour ça que je suis peu présent sur le Slack. C'est pour ça que j'arrive pas à organiser des lives aussi souvent que je le voudrais, et surtout des lives privatifs. Comprenez bien ça, c'est qu'aujourd'hui, avec les ressources humaines que j'ai, en plus amputé d'une caribou qui a dû reprendre ses études, et pour l'instant... D'ailleurs, je le dis, hein, le poste de stagiaire est toujours ouvert à envoyer vos candidatures. Là, vous les envoyez direct à nowtechtv@gmail.com. Je cherche toujours un assistant, un stagiaire. J'ai pas répondu encore à tous les candidats, mais il faut que je les rencontre. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. J'ai un gros groupe de gens, on va dire bénévoles, qui peuvent m'aider pour les tournages, mais je cherche vraiment encore un stagiaire plus fixe et plus permanent, et avec une vraie convention de stage. Écrivez-moi si vous faites partie d'une école, si vous pouvez faire une convention de stage. Ah oui, dans le sud, ça va être un petit peu difficile de venir à Paris pour faire ton... À moins que tu aies un logement sur Paris, mais... C'est un stage long, hein. Je prends un stage minimum... Enfin, c'est un stage de 6 mois minimum, hein. C'est des stages longs. Donc, voilà. Ça reste ouvert pour le stage. Comme je vous le dis, il faut avoir... Mes critères sont pas que vous ayez fait une école de cinéma et que vous fassiez du Final Cut ou du Premiere comme un dieu, ce genre de truc. Ce que je demande, c'est d'avoir un minimum de connaissances photo, que j'ai pas à vous réexpliquer ISO, ouverture, vitesse. Que vous ayez déjà manipulé des réflexes ou des hybrides. Vous ayez un minimum de notions de montage, que vous avez au moins monté une vidéo de vacances sur iMovie ou un truc comme ça. Voilà. Les Early Birds, alors toutes les places sont prises. Hein. Les nouveaux Early Birds, là, il n'y a plus de place. Les 20 places ont été prises. Non, il est 9h09. D'accord, écoute Antoine, on voit les choses sur... Je vais demander aux bénévoles déjà là de commencer à travailler sur ce dossier. Il va falloir que je mette un cahier des charges. N'envoie pas trop vite parce que pour l'instant, j'ai même pas encore fixé le cahier des charges. Donc, je vais pas avoir le temps de m'occuper de ça avant un petit bout de temps. Donc, pas pour l'instant. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Et oui, 10 minutes. Mais c'est bien. Déjà, on termine pas à 9h20. On se retrouve demain pour le dernier TechScope de la semaine. Soyez sages. Passez une excellente journée. Et à demain, tout le monde. Allez, ciao, ciao.